cette bénédiction donnée, il n'est plus possible de revenir en arrière et le bénéficiaire devient l'unique héritier légitime du donateur. Si Jacob veut vraiment faire valoir qu'il a obtenu le droit d'aînesse par une petite transaction avec Ésaü, il devient urgent d'en informer Isaac. Mais ce n'est pas du tout ainsi que ça va se passer. Car c'est Rebecca, sa mère, qui va prendre les choses en main. Rappelons-nous que juste avant la naissance de ses fils, elle avait reçu une prophétie qui disait « Le grand servira le petit ». Et elle était bien décidée à intervenir pour que cette prophétie se réalise. Et pour cela, Rebecca ne voulait pas laisser faire Isaac parce qu'elle connaissait trop bien son attachement à Ésaü. Elle dit donc à Jacob, donc nous sommes en Genèse 27, verset 8, « Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va donc au troupeau, prends-y pour moi deux beaux chevreaux, et j'en préparerai pour ton père un repas comme il aime. Tu la porteras à ton père, il mangera pour te bénir avant sa mort. » Voilà, donc une mystification soigneusement préparée. Il s'agit de prendre Ésaü de vitesse et de se substituer à lui pour intercepter la bénédiction d'Isaac avant qu'il ne revienne de la chasse. Le plan est clair, mais Jacob est réaliste. Il redoute d'être démasqué par son père et il objecte à sa mère, donc Genèse 27, verset 11, « Mon frère Ésaü est un homme velu, et moi, je n'ai pas de poils. Il est possible que mon père me touche et se rende compte de mon imposture. J'attirerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. » Voilà, il n'a pas tort. C'est là, alors, qu'on se rend compte de l'absolue détermination de Rebecca qui lui répond « Vienne sur moi ta malédiction, mon fils. » Et elle va trouver des solutions. « Écoute-moi seulement. » Alors, va me chercher ce que je t'ai dit. Il alla puis rapporta à sa mère qui prépara donc un repas comme son père Isaac l'aimait. Rebecca prit ensuite des vêtements d'Ésaü, son aîné, les plus précieux qu'elle avait dans sa maison, et en revêtit Jacob. Et elle recouvrit de la peau des chevreaux ses mains et la partie lisse de son cou. Voilà, le déguisement est parfait. Alors Jacob décide qu'il peut s'approcher de son père en apportant le repas. Seulement, Isaac était aveugle, bien sûr, mais pas sourd. Et en entendant la voix de Jacob, il croit la reconnaître. Alors il interroge. Et il est aussi surpris, d'ailleurs, qu'Ésaü ait pu faire aussi vite pour aller chasser du gibier, être revenu et avoir déjà préparé un repas. Mais Jacob a des arguments. Isaac a donc des doutes et il demande finalement à toucher Ésaü pour pouvoir faire vraiment confiance. Et là, le subterfuge de Rebecca va fonctionner. Elle a réussi à mettre la fourrure sur les mains et le cou de Jacob. Et elle réussit aussi à tromper les mains de son mari, qui, touchant une peau velue, fait donc confiance à Jacob. Alors, après avoir bien mangé et bu du vin, Isaac dit, donc Genèse chapitre 27, verset 26, « Viens donc plus près et embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et embrassa. Isaac huma l'odeur de ses vêtements et le bénit en disant, « Oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et du gras terroir, du froment et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent et que des populations viennent se prosterner devant toi. Sois chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Voilà, donc trompé aussi par l'odeur des vêtements que Jacob avait vêtus, les vêtements d'Ésaü, la bénédiction d'Isaac est donnée à Jacob. Tout est scellé, il vient de le donner sans savoir à son fils cadet. C'est à ce moment-là qu'Ésaü revient de la chasse et gentiment prépare à son tour le repas attendu et l'apporte tout confiant à son père. Isaac est surpris, bouleversé. Le texte dit, verset 33, « Isaac fut saisi d'un tremblement extrêmement violent. » Il vient de comprendre qu'il a été trompé, qu'il a donné sa bénédiction à quelqu'un d'autre que son fils Ésaü. Il a compris que Jacob avait capté cette bénédiction qui est irréversible et que l'histoire familiale n'allait plus se dérouler comme il l'avait souhaité. Et Ésaü, un instant effondré, va vite surmonter sa désillusion pour entrer dans une colère noire. Il annonce à qui veut l'entendre qu'il se débarrassera de Jacob, qu'il le tuera dès qu'Isaac sera mort. Alors là, Rebecca prend conscience du danger et va conseiller à son fils Jacob de fuir et d'aller se réfugier dans la famille de son frère, donc l'oncle de Jacob, en attendant qu'Ésaü se calme, ce qui va prendre quelques années. De son côté, Isaac, qui subit et se plie à la réalité des événements, va en profiter, toujours sur les conseils de sa femme, un peu pressant d'ailleurs, pour organiser le mariage de Jacob avec une fille, justement, du clan de Bethuel, le père de Rebecca, parce que décidément, les épouses hittites d'Ésaü lui déplaisent toujours autant. Voici donc les paroles d'Isaac à son fils Jacob, cette fois, chapitre 28, verset 2. « Va en plaine d'Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et prends là-bas une femme, une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il te rende fécond et prolifique pour que tu deviennes une communauté de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance pour que tu possèdes le pays de tes migrations, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Ainsi faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Isaac bénit son fils Jacob, cette fois en toute légitimité, et celui-ci part rejoindre la famille de sa mère en terre araméenne. Mais comment comprendre que l'immense destin qui attend Jacob, puisqu'il va devenir le père des 12 tribus d'Israël, il a trouvé son origine dans un conflit familial plus ou moins sordide, avouons-le. Isaac, devenu vieux, a littéralement été trahi par sa femme et son fils cadet, qui organise une sorte de captation de l'héritage spirituel. Ce pauvre homme fut désavoué dans son amour pour son fils aîné, dont le côté viril et un peu brut est presque moqué, en tout cas mis à mal par sa femme, qui ne cache pas sa préférence pour son fils Jacob, plus raffiné et subtil. Les deux frères vont donc devenir des ennemis, et on comprend bien pourquoi. Ils ne se réconcilieront que bien des années plus tard, juste à temps pour assister à la mort de leur père Isaac, qui mourra à l'âge de 180 ans. Et c'est ensemble, finalement, qu'Ésaü et Jacob vont enterrer leur père dans le caveau familial à Hébron, où, dit-on, Rebecca fut ensuite enterrée à ses côtés. Ce ne fut pas vraiment une famille modèle, mais elle fut quand même à la hauteur de la bénédiction de Dieu à Abraham. Voilà, ainsi s'achève notre moment d'attention au visage d'Isaac. Et à présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à bientôt pour découvrir d'autres visages de la Bible.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com. Radio Présence
à Toulouse 97.9.
Joie de vivre. La 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 la. Tu ne mérites pas de marcher ainsi. Ouh. Oh yeah. Ah. Tu ne mérites pas de toujours marcher le visage bas. Laissez aller, l'heure est venue d'abandonner le passé. Ce que tu as reçu est un évangile riche en liberté, de possibilités remplies de vie, pleine de choses à découvrir. Dieu ne t'a pas fait pour des miennes, il t'a fait pour t'épanouir. Mon frère, ma soeur, découvrir qu'on sert un Dieu et qu'il vit. Il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet d'en prendre soin. Son plus grand désir est de nous faire grandir, vivre à ses côtés. Ce qu'il y a de mieux, non, rien dans ce monde ne saurait le remplacer. C'est par amour vrai que pour ses enfants, il a préparé bien des choses cachées que l'œil n'a vues ni l'oreille entendu. Dieu ne t'a pas fait pour des miennes, il t'a fait pour t'épanouir. Mon frère, ma soeur, découvrir qu'on sert un Dieu et qu'il vit. Il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet, oh, ce qu'il y a de mieux sont dans ses voies. Vas-y par la foi. Fait pour des miens, il t'a fait pour t'épanouir. Mon frère, ma soeur, découvrir qu'on sert un Dieu et qu'il vit. Il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet d'en prendre soin. Oh, oh, oh.
Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que je vous invite à suivre toute la semaine. Je reçois au micro Anne Lemaître, issue du milieu charismatique catholique, engagée dans ce qu'on appelle l'intercession prophétique depuis 2006, diplômée en études bibliques dans un cursus théologique et en langue biblique de l'Institut catholique de Paris. Bonjour Anne Lemaître.
Bonjour Nathalie.
Et ce n'est pas fini en présentation. Vous êtes dotée d'une solide expérience d'intercession vécue dans l'unité des chrétiens. Alors, vous en êtes aujourd'hui où dans tout ce chemin, tout ce parcours, puisque vous êtes aussi responsable d'un groupe d'intercession, France Intercession. Alors, qu'en est-il ?
Eh bien, écoutez, au jour d'aujourd'hui, donc, je continue bien sûr l'intercession, mais en fait, par l'écriture de mes deux livres, dont vous allez parler, Nathalie, je suis invitée, en fait, par des paroisses, par des communautés, ou même des groupes de prière, en fait, pour amener une formation, nouvelle formation, et donner des outils, des bases pour dans l'intercession prophétique, mais aussi dans la vie spirituelle, dans la vie de tous les jours.
Alors, ce livre, préfacé par le père Guy Lepoutre, père jésuite, prêtre exorciste,
oui.
Du moins, oui, vous
tout
confirmez.
Tout à fait, je confirme.
Alors, ce livre est paru il y a 2 ans, je vous avais reçu lors d'une série des clés pour vivre, aux éditions des Béatitudes, il est paru. Ménage spirituel de notre maison, discerner, trier et rejeter, donc c'est le titre de cet ouvrage. Vous avez parlé d'outils, c'est un véritable outil.
Tout à fait. Un véritable outil pour apprendre à faire du ménage, mais du coup c'est un ménage, ce qu'on appelle un ménage spirituel, et vous allez comprendre au fur et à mesure des séries.
Voilà, et moi je vais vous inviter tout de suite dans ce premier entretien, donc des clés pour vivre, donc quelques clés pour trier, pour discerner, pour rejeter peut-être, pour faire ce grand nettoyage, peut-être un nettoyage de rentrée.
Hein, tout à fait.
Pas, voilà, je vous ai proposé donc d'ouvrir un premier angle sur cette odeur d'argent. Une odeur d'argent qui pourrait sembler parfois être une ou devenir une mauvaise odeur. Et vous reprenez dans cet ouvrage, et je vous invite, chers auditeurs, vraiment à vous procurer cet ouvrage qui est paru aux éditions des Béatitudes. Alors, quelles sont les conséquences aussi de cet argent, bon ou mauvais, en fait ? On vous écoute.
Alors, je peut-être définir un petit peu. L'argent, je dirais qu'en soi, l'argent n'est pas mauvais. C'est ce que l'on en fait qui est mauvais. Et c'est surtout la manière d'acquérir l'argent, la manière d'amasser cet argent-là. Quand on tombe, ce qu'on appelle dans le vice ou dans le péché de l'argent, on veut toujours plus amasser. Et c'est cette façon démesurée d'amasser l'argent qui devient mauvais en soi, parce que ça nous éloigne de Dieu, ça nous éloigne des autres. Et on va chercher les meilleures combines, si vous voulez, pour avoir de l'argent. Donc, les jeux, par exemple, ou alors de l'argent facile à gagner, mais qui en soi est mal gagné. C'est de l'argent sale, entre guillemets, si vous voulez. Et donc, vous comprenez la différence ? Donc, je veux bien insister pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, l'argent en soi n'est pas mauvais, c'est la manière dont on l'utilise, et surtout, dans notre cœur, la manière dont on veut amasser et garder cet argent de façon démesurée.
Alors, on peut entendre aussi la manière dont il est gagné aussi.
Tout à fait. Hein ? Tout à fait, les deux manières. De toute façon, à partir du moment où on amasse l'argent, c'est la manière dont on le gagne qui est amassée. C'est cette manière-là qui fait que l'argent peut être mauvais.
C'est là où il devient sale, c'est là où on ouvre cette porte un peu de désordre.
Et tout à fait, tout à fait. Et ça devient ce qu'on appelle un vice.
Donc une addiction, une dépendance.
Tout à fait, tout à fait. Et le jeu en particulier, le jeu d'argent, est vraiment pervers en soi, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait on s'attache à cela, et qu'il y a une manière, on joue et puis ensuite vous gagnez, donc vous voulez encore plus jouer, toujours plus et toujours plus.
Alors quelles sont les conséquences, puisque vous évoquez aussi les jeux d'argent qui peuvent entraîner très souvent aussi une dépendance et une addiction?
Tout à fait.
On ne sait plus s'arrêter.
Oui, alors les conséquences, je veux dire, c'est du coup un endurcissement du cœur. Parce que en fait, on veut amasser de l'argent pour soi. Donc, on endurcit notre cœur. On veut toujours chercher cet argent-là. Et du coup, notre cœur est endurci. Et du coup, on se rend compte que, comme notre cœur est endurci, du coup, on s'éloigne de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu, puisqu'on a l'argent qui nous comble. On n'a plus besoin des autres. Ça, c'est une deuxième conséquence qui fait qu'on s'éloigne des autres, parce qu'en fait, l'argent nous satisfait et du coup, on n'a plus besoin des autres. Donc, on avance comme cela. Une autre chose que... dans nos relations, les relations vont devenir superficielles. Puisque pour nous, ce qui est important, c'est l'argent. Donc, c'est comme si, vous savez, vous aviez un rapport à l'argent, comme si c'était une personne, et tout est fixé sur l'argent, et du coup, il n'y a plus de relation avec les autres, c'est superficiel, on n'a plus de relation aux autres, voilà. Et une autre conséquence, c'est l'obscurcissement de l'intelligence. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte qu'en fait, en amassant démesurément l'argent, notre intelligence est obscurcie, et on se rend pas compte qu'on tombe dans le péché. Voilà. C'est un petit peu les conséquences que je dirais à ce niveau-là.
Alors que faire hein? Comment relever la tête et oui. Comment sortir de cette dépendance?
Est-ce que
qui vient me posséder cet
oui, tout à fait, tout à fait,
possède.
Tout à fait. Est-ce que je peux donner un exemple?
Oui.
Un exemple biblique. Dans la Bible en particulier, il y a un récit que j'aime beaucoup. C'est le récit, vous savez, où Jésus se rend à Béthanie et il y a, vous savez, une femme qui vient et qui verse du parfum sur ses pieds. Et Judas est présent. Je vais vous lire ce texte-là. Et pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé avec Judas, parce que Judas a eu un mauvais rapport avec l'argent. Donc vous trouvez ce récit, c'est dans l'évangile de Jean. Au chapitre 12, vous pouvez relire l'évangile de Jean au chapitre 12. Donc Jésus se trouve chez Marthe et Marie. Donc Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Donc, vous voyez dans ce texte, on parlait d'odeur tout à l'heure, vous parliez d'odeur. Il y a deux sortes d'odeurs ici. Le parfum, qui est une très bonne odeur, mais un autre parfum en soi qu'on ne sent pas, mais c'est celui de l'argent. Si vous regardez le texte là, vous avez des termes très parlants. Il veut vendre le parfum, on dit qu'il est voleur, on dit qu'il tient la bourse, et il y a les pauvres qui sont là. Vous savez, tous ces termes ça, en fait, qui sont liés à l'argent. Et donc, Judas, que va-t-il se passer? En fait, Judas va être complètement pris par l'argent. Au lieu de voir la bonne action de la femme qui est là, au lieu de voir Jésus, son sauveur, là, eh bien, il ne va voir que l'argent. Il ne va voir que ça en se disant, on aurait dû vendre pour, en fait, récupérer l'argent. Encore, vous voyez, une combine pour essayer de récupérer au mieux l'argent de la manière dont on peut. Et que va-t-il se passer? Plus grave pour Judas, du coup, il va y avoir une trahison par rapport aux apôtres, parce qu'il va les trahir. Donc l'argent nous amène jusqu'à trahir. Mais bien plus que cela, il va livrer Jésus. Donc l'argent peut même amener jusqu'au meurtre. Là, il y a une dimension là au niveau de Judas qui est, lui, il est vraiment tombé dans un vice qui l'a mené vers quelque chose de mauvais. Et donc du coup, comme c'est lui qui tenait la bourse, il veut tout calculer. Donc il récupère l'argent. Et après, comment faire? Il va... Pour récupérer de l'argent, il va livrer Jésus. Et donc, on va lui donner de l'argent pour livrer Jésus. Vous voyez, donc, tout est vicié dans sa manière de faire.
Tout est calculé.
Tout est calculé. Tout est contrôlé. Tout est maîtrisé de son côté. Il veut, du coup, vous savez, quand vous avancez l'argent, c'est le contrôle de tout. Donc, vous voulez absolument tout contrôler dans votre vie. Et du coup, Judas s'est laissé complètement avoir par cela. Qu'aurait dû faire Judas? C'était ça la question que vous posiez. Qu'aurait dû faire Judas? Il aurait dû se tourner vers Jésus. Il aurait dû reconnaître que Jésus, son seul sauveur, que l'argent ne comble en rien dans cette manière-là, que Jésus devait être son seul sauveur.
Donc au fond, la finalité, c'est la question du salut.
Oui.
Et la question du bonheur.
Exactement.
Et au fond, c'est la question, on est sur ce chemin, deux chemins se présentent.
Tout à fait.
Qu'est-ce que je veux? Je choisis la vie ou la mort?
Tout à fait. Il y a un texte de Matthieu qui dit « Là où est ton cœur est ton trésor », dans Matthieu 6, 21. Donc c'est là, Judas n'avait pas mis son cœur au bon endroit. Et c'est là où on doit comprendre qu'on doit mettre son cœur en Jésus.
Vous donnez une bonne clé là, vous rappelez cette clé en quelques minutes, et moi j'invite et je vous invite, chers auditeurs, à relire aussi l'évangile de l'onction à Béthanie,
tout
où
à
vous
fait.
Avez donné la référence, Saint Jean chapitre 12,
tout à
versets
fait.
1 à 8, donc si vous avez une Bible, et je l'espère chez vous, relisez, méditez, priez sur ce passage biblique de l'onction à Béthanie, et puis lisez, procurez-vous, vous en parlez très bien, Anne Lemaître, dans ce livre paru aux éditions des Béatitudes, notamment aussi de cet argent, hein. L'odeur peut être bonne, mais qu'est-ce qu'on en fait ?
Tout à fait.
Voilà. Et donc, chers auditeurs, je termine en vous posant cette simple question qui sera la méditation du jour. Et on vous retrouve demain. Comment vous vous positionnez personnellement face à l'argent ? Anne Lemaître, auteure de ce livre, Ménage spirituel de notre maison, discerner, trier, rejeter. On vous retrouve demain à la même heure.
À demain.
Merci.
Présence.
To get down.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Thérapie Pop. Notre travail, chaque semaine, c'est de prendre en main votre culture musicale. Allongez-vous, détendez-vous. La prescription, anecdotes, dernières sorties, explications d'albums mythiques, on s'occupe de tout. On s'occupe de vous. À très vite chez Thérapie Pop.
Thérapie Pop, tout l'été sur Radio Présence, du lundi au vendredi à 17h30. Des clés pour vivre. L'intégrale.
Bonjour Anne Lemaître.
Bonjour Nathalie.
C'est un deuxième entretien dans cette série des clés pour vivre avec pour thème de la série. Hein, et c'est le titre de cet ouvrage que vous avez écrit il y a déjà un peu plus de 2 ans
oui.
Aux éditions des Béatitudes, qui est un outil d'accompagnement.
Tout à fait.
Qui donne des clés pour vivre, vivre sa vie spirituelle, mais en apprenant à trier, rejeter ce qui doit être rejeté.
Tout à fait.
Et puis apprendre aussi à discerner ce qui doit être discerné. Et ce livre s'intitule Ménage spirituel de notre maison. Et cette maison, on l'a bien compris, c'est la maison du cœur intérieur. Hein, voilà. Alors au programme, je vous ai proposé, vous en parlez dans le livre, dont, chers auditeurs, tout ne pourra peut-être pas être dit en 10 minutes d'entretien, mais vous avez ce livre en support. On va parler de cette pratique de la divination et du spiritisme. Vous évoquez très vite, vous parlez de l'horoscope, de l'astrologie, de l'interprétation des présages et des sorts, des phénomènes de voyance, du recours au médium. Alors, quels sont les risques, quels sont les dangers et quelles en sont aussi les conséquences ? Anne Lemaître, et merci.
Bonjour, chers auditeurs. Alors, c'est sûr que c'est un thème vaste. En 10 minutes, on a peu de temps. En fait, je voudrais commencer pour qu'on puisse un petit peu comprendre par un exemple, si vous le permettez, Nathalie. Un exemple qui m'avait été raconté, c'était une jeune qui avait perdu sa grand-mère. Et à la mort de sa grand-mère, elle l'a rejetée sur Dieu, si vous voulez. Vous voyez, la mort de sa grand-mère, elle considérait que c'était Dieu qui en était l'auteur. Et du coup, elle en a été très affectée. Et elle a rencontré une personne qui lui a fait découvrir le spiritisme. Donc le spiritisme, c'est vraiment entrer en contact avec les morts et les soi-disant les faire parler, si vous voulez. Et donc, il a commencé à rentrer... elle pensait que elle rentrait en contact avec sa grand-mère en fait, et donc elle a commencé à parler et ça a duré comme ça plusieurs temps. Et puis à un moment donné, elle a complètement changé parce qu'elle s'est rendue compte que elle avait certains pouvoirs, si vous voulez. Et puis elle a commencé à les conséquences sont arrivées très vite. Dispute dans sa famille, dispute dans son travail. Et elle s'est éloignée de sa famille. Elle a commencé à devenir comme une sorte de gourou, si vous voulez, parce qu'elle avait des pouvoirs, donc elle pouvait tout faire. Et puis, donc, elle a mené les gens là-dedans. Et puis, il s'est passé à un moment donné que la voix de sa grand-mère qu'elle entendait, c'était pas vraiment la voix de sa grand-mère. Donc elle l'a dit comme ça, mais qui es-tu, qui me parle? Et la voix lui a dit, je suis Satan. Et cette jeune, en fait, était catholique de base, elle a commencé à avoir très peur. Donc elle a arrêté tout de suite le spiritisme. Mais à partir du moment où elle a arrêté le spiritisme, il lui arrivait tout plein de malheurs dans sa vie. Quand elle rentrait chez elle, la lumière s'allumait toute seule. Sa radio s'allumait toute seule. Elle a failli se suicider. Vous voyez, plein de conséquences comme cela, où elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc, elle a été voir un prêtre exorciste, elle a vraiment discuté avec lui. Le prêtre exorciste lui a vraiment expliqué les choses, l'a vraiment amenée dans un retour à Dieu. Donc, elle s'est confessée de tout cela. Il y a une prière d'exorcisme qui a été faite, elle en a été libérée. À partir du moment où elle a été libérée, tous ses effets, ses conséquences se sont arrêtées. Voilà. Donc vous voyez un petit peu les conséquences de ce que peut apporter le spiritisme, en tout cas la divination. Parce que mine de rien, en tout cas dans cet exemple, vous voyez qu'il y a une porte qui est ouverte, on ne sait pas trop laquelle. Et quand on touche à cela, on est ignorant de cela, donc on ne sait pas les portes que l'on ouvre. Mais en tout cas, ça ouvre vers des choses plutôt enténébrées, je dirais cela comme ça.
Un exemple parlant. Alors, si parmi nos auditeurs, Anne Lemaître, certains vous écoutent, découvrent, et découvrent peut-être entendre pour la première fois que la pratique du spiritisme peut mettre gravement en danger.
Tout à fait.
Alors, ne pas paniquer, allez voir tout de suite un prêtre exorciste.
Oui, si on pense que l'on a été... j'allais dire embarqué, parce que parfois, comme on est ignorant des choses, c'est ce que je fais dans mon livre, ce n'est pas une condamnation. C'est si vous, auditeurs, vous écoutez, que vous êtes dans cette pratique-là, ce n'est pas du tout une condamnation, mais c'est pour vous, justement vous avertir de ces conséquences-là, et que vous avez des moyens de vous en sortir. C'est que, alors les moyens, ce sera d'aller voir un prêtre exorciste, ou du moins aller déjà en parler à votre prêtre de votre paroisse, quelqu'un que vous connaissez. Et ensuite, demander à être orienté vers un prêtre exorciste qui, lui, pourra vous aider.
La finalité.
C'est la finalité, tout à fait.
Du travail. Alors, je pense aux auditeurs qui vous écoutent. Un auditeur qui consulte son horoscope tous les jours, c'est grave ou c'est pas grave, hein? Docteur Lemaître. Oui.
En soi, c'est... Alors j'ai pas le pape. Le pape a écrit quelque chose sur les horoscopes. Il dit en fait que vous demandez, en fait l'horoscope, c'est demander que votre avenir soit prédit, si vous voulez. En tant que nous, on n'a pas la capacité de prédire l'avenir, parce que l'avenir n'existe pas. Dieu n'est pas dans le temps. Donc lui, il voit toutes choses. Il n'y a que lui qui peut voir les choses. Il n'y a que lui qui est notre créateur. Il n'y a que lui qui nous connaît exactement. Et c'est ce dont nous avons besoin. Quand on lit notre horoscope, en fait, on veut demander... en arrière-plan, c'est demander à Dieu, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que mon avenir. Sauf que les moyens pris ne sont pas les bons. On ne s'adresse pas à la bonne personne, si vous voulez. Et donc,
On rejoint la pratique du spiritisme.
Exactement.
On rejoint la même personne, c'est la même personne qu'on rejoint.
Exactement. Hein? Et donc, du coup, si on a vraiment, on se dit, mais Seigneur, si on est vraiment chrétien et qu'on se demande quel est mon avenir, au lieu d'aller lire l'horoscope, allez voir une personne qui peut prier pour vous, allez dans une église, allez à l'adoration, et demandez au Seigneur qui vous donne justement. Ce que lui, il peut vous dire de ce que vous pouvez être amené à être et à faire. Parce qu'en fait, l'origine des choses, c'est que l'on est, on doit se connaître nous-mêmes. C'est pas faire les choses, c'est être, ce qui est différent. Et il n'y a que Dieu qui peut nous dire qui nous sommes. Et à partir du moment qu'on sait qui on est, alors on peut faire des choses. Et l'horoscope ne va nous dire que ce que vous devez faire. Seul Dieu peut vous dire qui vous êtes. Vous voyez la différence, Nathalie? Et j'espère que les auditeurs le comprennent, parce que du coup, on peut comprendre que toute l'astrologie, tous les voyants, tout cela, ils vont nous dire des choses sur ce qu'on va faire, mais pas sur ce que l'on est. Seul Dieu peut révéler cela. Voilà.
D'ailleurs, on peut, quand on écoute ou qu'on rencontre des personnes qui sont parfois dépendants de voyants,
oui.
Ça génère de l'anxiété, génère de la peur, alors que Dieu nous dit de vivre aussi l'instant présent, ce moment qui est unique.
Tout à fait. Et je peux donner un autre exemple.
Allez-y.
Par rapport
ça,
à cela.
Ça sera le dernier.
C'était une personne en fait qui avait été voir un voyant.